Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Joe Biden, le président américain, reconnaît le génocide arménien. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, salue une mesure très forte envers la justice et la vérité historique. Les rassemblements de la colère, des rassemblements prévus aujourd'hui dans toute la France, plusieurs collectifs veulent dénoncer l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi. Le meurtrier a été reconnu irresponsable pénalement. Covid-19 en Hongrie, les terrasses rouvrent alors que le pays bat des records de mortalité, la plus élevée au monde depuis quelques semaines. Et puis le sport, championnat d'Europe de gymnastique à Bâle en Suisse, deux Françaises ont des chances de médaille à la poutre.
Les invités de la matinale à partir de 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Sabine Melchior-Bonnet pour Le Rire des Femmes, une histoire de pouvoir, c'est paru aux éditions du PUF.
Et puis à 8h20, question ce matin sur l'islamo-gauchisme. Selon le sociologue Michel Vieviorca, il est l'auteur du livre Racisme, antisémitisme, antiracisme, apologie pour la recherche. Le livre est sorti à la boîte à Pandore.
Et c'est pas du PUF, c'est des PUF, hein, je me suis trompée.
France Inter. Les presses universitaires de France. Oh, l'actualité, c'était cette promesse emblématique de sa campagne.
Joe Biden a prononcé hier le mot génocide pour qualifier la mort d'1,5 million d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman en 1915. Aucun de ses prédécesseurs n'avait osé, redoutant la réaction de la Turquie. Barack Obama s'était engagé à le faire, mais il a reculé une fois installé à la Maison Blanche. Le président turc Erdogan a immédiatement dénoncé la politisation du débat. La Turquie n'a de leçon à recevoir de personnes sur son histoire. En Arménie, l'annonce a redonné du baume au cœur au pays qui commémorait hier le triste 106e anniversaire de ce massacre. Correspondance de Bastien Bory à Erevan.
Une simple présence, une prière, une fleur déposée. Des centaines de milliers de personnes sont venues samedi au mémorial du génocide. Un monument qui porte un peu mieux son triste nom depuis quelques heures. Après l'Allemagne, la France, la Russie, les États-Unis, autre grand pays à reconnaître l'extermination par les Ottomans d'1,5 million d'Arméniens en 1915. Ici, on salue la pression politique exercée par la diaspora.
Je pense que partout dans tout le monde, les Arméniennes jouent un grand rôle pour la reconnaissance du génocide arménien. Et pour la communauté internationale, c'est très important pour défendre la vérité. Et il faut que le génocide et les massacres ne se produisent pas partout dans tout le monde.
106 ans de lutte qui n'empêche pas certains de voir déjà plus loin.
En sachant que les Turcs sont alliés des États-Unis, ce sera intéressant de suivre ce qui va se passer à l'avenir. Je pense qu'il faudrait se concentrer sur les actes plutôt que sur une histoire de mots. Il faudrait aussi que nous passions à autre chose.
D'autres luttes attendent en effet les Arméniens dans ce pays à l'avenir politique incertain. Le Premier ministre Nikol Pachinian, conspué par la majorité de la population, pourrait bien être réélu aux législatives anticipées de juin prochain.
Bastien Bory à Erevan. Une quatrième personne placée en garde à vue dans le meurtre de Stéphanie, la fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet, tuée vendredi après-midi. Sa mort replace la menace terroriste à l'agenda politique, réunion de crise à Matignon et visite d'Emmanuel Macron hier auprès de la famille de la victime. Et ce sera dans moins d'une semaine, mercredi, après moins d'une semaine après cette attaque mortelle, que Gérald Darmanin présentera mercredi en Conseil des ministres un projet de loi consacré au renseignement et à la lutte contre le terrorisme. Dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur précise notamment que les mesures de contrainte administrative qui visent les condamnés pour terrorisme à leur sortie de prison pourront aller jusqu'à 2 ans au lieu d'un an aujourd'hui.
L'actualité, ce sont aussi ces manifestations prévues aujourd'hui, notamment à Lyon et à Paris, pour réclamer un procès pour le meurtrier de Sarah Halimi.
Sarah Halimi, cette femme juive défenestrée en avril 2017 à Paris, après plusieurs années de bataille juridique, la Cour de cassation a fermé définitivement la semaine dernière la porte à un éventuel procès en validant l'irresponsabilité pénale du meurtrier Kobili Traoré. Une décision très contestée, Margot Steve.
Pour la Cour de cassation, Kobili Traoré n'était pas responsable de ses actes au moment des faits. Les juges s'appuyaient notamment sur l'avis de plusieurs experts. Selon eux, le meurtrier de Sarah Halimi était sous le coup d'une bouffée délirante et incontrôlable, provoquée notamment par une consommation très importante de cannabis. Justement, disent les avocats de la famille de Sarah Halimi, prendre de la drogue devrait être considéré comme une circonstance aggravante. Mais pour les juges, la loi ne prend pas en compte ce qui a provoqué l'état délirant. Ils ont donc reconnu Kobili Traoré irresponsable. responsable de ces actes. Une décision scandaleuse pour les proches de Sarah Halimi. Sa sœur a d'ailleurs déposé plainte en Israël pour tenter d'obtenir un procès là-bas. Même Emmanuel Macron est monté au créneau. Dans une interview donnée au Figaro la semaine dernière, le président affirme vouloir un changement de loi sur le sujet. Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas, dit le chef de l'État, supprimer votre responsabilité pénale.
Margot Steve, de nouvelles restrictions sanitaires en vue en Guadeloupe à partir de mardi et pour 3 semaines. Recrudescence des cas de Covid sur le territoire et notamment 2 personnes en transit qui ont été diagnostiquées au variant indien et 1/3 au sud-africain. Alors en plus du couvre-feu déjà en vigueur en Guadeloupe, les déplacements en journée au-delà de 10 km seront interdits sauf dérogation. Commerce non essentiel fermé, vente d'alcool interdite sur la voie publique et puis accès aux plages et aux rivières restreints.
Après les Anglais, c'est au tour des Hongrois. Depuis hier, les cafés et restaurants ont rouvert leurs terrasses.
Le Premier ministre Viktor Orban avait annoncé que l'ouverture aurait lieu dès que 3,5 millions de personnes seraient vaccinées avec une première dose. C'est fait, 36% de la population a reçu sa première injection contre 19% en France. La Hongrie est le 2e pays d'Europe où l'on vaccine le plus, mais avec 200 morts par jour, le pays a également le taux de mortalité le plus élevé au monde en pourcentage de la population, bien sûr. Et la réouverture des terrasses inquiète les experts de santé. C'est le reportage à Budapest de Florence Labruyère.
Déjeuner en terrasse sous le ciel bleu, face au Danube. Pour Nandor, étudiant en lettres, c'est ce qui s'appelle une journée parfaite.
Ah, c'est vraiment bien. Je n'avais pas mangé en terrasse depuis l'été dernier. Et cerise sur le gâteau, il fait beau.
Avec son mari et ses 2 enfants, Emeshe savoure une liberté retrouvée.
On a pris des hamburgers. Quel plaisir de pouvoir enfin enlever le masque. Il n'y a pas trop de monde, donc c'est sans risque.
Pourtant, certains experts tirent la sonnette d'alarme, car la Hongrie a le plus fort taux de mortalité au monde. Ancien directeur de la santé, Ferenc Valós craint une 4e vague.
Le pays ne fait pas assez de tests et plus de 10% sont positifs. Pour rouvrir les terrasses en toute sécurité, il faudrait qu'on ait entre 3 et 5% de tests positifs.
Mais Viktor Orban reste optimiste. Il y aura bientôt 4 millions de Hongrois vaccinés avec une première dose. Les restaurants pourront alors accueillir les clients à l'intérieur, a annoncé le Premier ministre. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
Demain, c'est la rentrée des classes, mais depuis 3 semaines, beaucoup sont allés se confiner ailleurs, et notamment en Franche-Comté, des Parisiens souvent, qui cherchent un peu de verdure notamment. Alors ils ont bravé la limite des 10 km pour venir passer des vacances prolongées à la campagne. Charlotte habite à Paris, elle est directrice adjointe dans une compagnie de courtage en assurance. Pour elle, pas question de rester à Paris pour les confinements. Alors elle s'est réfugiée là où elle a grandi, chez ses parents à Fontaine, près de Besançon.
On n'a pas le droit, mais je pense que en cas de contrôle, ce qui ne m'est pas arrivé depuis un an, le fait d'expliquer qu'on vit seul dans 30 mètres carrés et que je suis pas partie avec toute ma marmaille, j'avais besoin de prendre un peu d'air, d'espace. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'espace et de verdure. Moi qui ai grandi ici, j'ai du coup pas mal d'amis dans le coin et de la famille. Mon frère parisien est venu aussi passer les vacances avec ses enfants. J'ai fait des tours de vélo. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre ? On a joué au tennis. Finalement, 10 km à vol d'oiseau. Ici, on fait quand même pas mal de choses déjà. À Paris, c'est un peu tout pareil. Il y a peu de parcs, donc une fois qu'on a fait l'un, l'autre, et puis il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de variété, en tout cas de choix d'activités à faire ici.
Un peu de sport avec cette dernière journée des championnats d'Europe de gymnastique à Bâle en Suisse et des chances de médailles pour l'équipe de France, notamment sur la finale de la poutre où 2 Françaises sont qualifiées. Ces championnats d'Europe marquent le retour à la compétition des gymnastes après plus d'un an sans aucune épreuve. C'est l'occasion de marquer les esprits à 3 mois des JO. Alors où en sont les Bleus ? Réponse avec Jérôme.
Ces championnats, c'est une façon de se situer par rapport à la concurrence après une année blanche, expliquait il y a quelques jours la directrice du haut niveau à la Fédération française de gymnastique. Mais difficile d'évaluer le réel niveau de cette équipe de France. Chez les hommes, Samir Aït Saïd, médaillé de bronze aux mondiaux fin 2019, est absent. Et la chef de file chez les femmes, Mélanie de Jesus dos Santos, a fait l'impasse sur le concours général. Le nouveau visage de la gym tricolore qualifié pour la finale de la poutre aujourd'hui veut en profiter pour s'essayer à de nouveaux mouvements.
À l'entraînement, c'est facile entre guillemets de les faire, mais avec le stress de la compétition et puis l'enjeu, c'est pas la même chose, donc c'est important de faire en compète. Ouais.
Mais à moins de 3 mois des Jeux Olympiques, cette reprise en compétition marquée par de nombreuses chutes cette semaine montre que le manque de repères pèse lourd, ce qui n'empêche pas Loris Frasca, seul Français qualifié pour la finale du saut de cheval aujourd'hui, d'être ambitieux pour Tokyo.
On va pas aller là-bas pour faire la participation, c'est chercher de la médaille d'or et rien d'autre.
Mais il faudra pour cela déstabiliser une équipe de Russie déjà lancée. Cette semaine en Suisse, elle a décroché 4 titres européens en 7 épreuves.
Jérôme Val.
Et c'était le journal de Laurence Thomas, le temps de ce dimanche.
La météo avec les meubles Gautier. Dormir, manger, se détendre, ranger. Trouvez le meuble Gautier qui répond à vos envies dans nos magasins et sur gautier.fr.
Et c'est un peu le grand écart, hein, les grands écarts, un grand écart de température entre la Manche et la moitié sud, Jean-Michel Golinski.
Ah, exactement, une différence assez flagrante d'ailleurs cet après-midi avec 13 degrés prévus en moyenne près de la Manche et le double sur la Gironde, les Charentes, le Limousin et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera généralement 22 à 24 dans la moitié sud et 20 à 22 de l'intérieur de la Bretagne au Val-de-Loire et du bassin parisien au Grand Est. Différence également dans l'état du ciel, particulièrement bien dégagé du nord de la Loire au nord-est, mais plus voilé dans la moitié sud du pays et parfois même menaçant entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le sud du Massif central. On notera un vent d'autant assez fort ainsi qu'un vent de sud assez marqué sur les Pyrénées. Et puis dans la moitié nord, comme hier, le vent de nord-est sera désagréable, en particulier le long de la Manche.
Jean-Michel Golinski, Météo France.